Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote. France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Connaissez-vous l'andropause, cette ménopause masculine, pour le dire vite, qui touche les hommes à partir de la cinquantaine? Longtemps minorée, elle est devenue l'une de leurs préoccupations majeures en vieillissant. L'andropause, ou déficit androgénique lié à l'âge, eh bien n'est pas une maladie, mais une baisse de testostérone aux multiples répercussions, baisse du désir, dysfonction érectile, fatigue, déprime, prise de poids. Nous verrons ce qu'est exactement l'andropause et ses mécanismes. Tous les hommes sont-ils touchés, comme les femmes, à l'âge de la ménopause? Quels sont les premiers signes qui doivent alerter? Comment y remédier? Que penser de la prise de testostérone? Quelles sont les autres solutions naturelles? Et puis surtout, pourquoi l'andropause est-elle encore un tabou, une question qui gêne les hommes? Élément de réponse avec notre club d'expertes et d'experts. Toutes vos questions et vos témoignages au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 en laissant message et note vocale sur l'appli France Inter, sans oublier la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Pas encore touché par l'andropause, mais ça viendra Baptiste, ça viendra. Vous êtes médecin et romancier à Toulouse. Quel est le menu de votre chronique? Alors voilà.
Eh bien, je vais vous parler troubles de l'érection et masculinité, Ali.
À tout à l'heure Baptiste, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour, vous dites quelque chose l'andropause ou pas?
L'andropause pour moi c'est une maladie.
Vous n'avez jamais entendu parler de ça?
Non.
J'ai déjà entendu parler de l'andropause.
Andropause, très bonne question.
Vous connaissez le concept? Les symptômes?
Les symptômes pas trop.
Vous, on n'en parle pas, hein, en tant qu'homme. Non, c'est toujours le trop public. Hein.
Nous autres les hommes. Ouais. On est pudique en fait sur ces sujets-là.
C'est quand même assez connu l'andropause, non? Ça me semble pas connu.
D'accord. C'est peut-être tabou.
Extrait du documentaire « L'andropause, la grande débandade » de Rémy Burkel, bientôt diffusé sur France Télévisions. Un sujet tabou que nous mettons en lumière ce matin. Bonjour professeur François Desgrandchamps.
Bonjour Ali.
Vous êtes chirurgien urologue, professeur d'urologie à l'Université de Paris, chef du service d'urologie de transplantation rénale et pancréatique de l'hôpital Saint-Louis.
Oui, en quelques mots.
En quelques mots.
Je ne résume pas ça.
Bonjour, mais... oui, bonjour docteur Emmanuel Le Cornet-Socol.
Bonjour.
Vous êtes endocrinologue, diabétologue et présidente de la Fédération Nationale des Endocrino-Diabétologues. Bonjour Élise Thiébaud.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et l'autrice de Ceci est mon temps, ménopause, andropause et autres aventures climatiques au Diable Vauvert, un titre énigmatique mais qu'on va expliquer dans quelques instants. Bonjour Anne-Cécile Michelet.
Bonjour.
Vous êtes autrice, journaliste et vous publiez chez Le Duc tout ce qu'il faut savoir sur l'andropause, mais que vous ne nous avez pas demandé. Alors, docteur Le Cornet-Socol, qu'est-ce que l'andropause? Les médecins parlent plutôt de déficit hormonal lié à l'âge ou de déficit androgénique lié à l'âge?
Alors tout ça, en fait, c'est un peu un parallélisme qu'on essaye de faire avec la femme, puisque la femme, autour de 51 ans, il y a la ménopause qui arrive. En fait, c'est difficile de comparer exactement les deux choses, parce que autant à la ménopause, il y a un arrêt total de la production d'hormones féminines, d'estrogènes, autant l'andropause, c'est un terme qui n'est pas vraiment adapté. Avec l'âge, physiologiquement, l'hormone masculine principale, qui s'appelle la testostérone, va diminuer de façon inéluctable, mais c'est rare qu'elle vienne à zéro. C'est plus un déficit, un manque. Mais pour qu'on puisse parler vraiment de déficit en testostérone, il faut non seulement qu'il y ait cette baisse, mais en plus des symptômes. Parce que si vous avez une diminution, mais qu'en fait il n'y a pas de conséquences, eh ben, on ne peut pas parler de véritable déficit.
On reviendra évidemment sur les symptômes. Le déficit androgénique lié à l'âge est donc lié à la baisse de la testostérone disponible. Rappelez-nous le rôle de cette hormone.
Alors une hormone, je rappelle, c'est un messager qui est fabriqué dans le corps par des glandes spécialisées. Donc la testostérone, elle est fabriquée pour 90% par les testicules et pour 10% par les surrénales, des petites glandes qui sont au-dessus des reins, qui fabriquent aussi d'autres hormones masculines. Et cette testostérone, elle va être responsable de tous les signes masculins. Donc au moment de la puberté, elle permet le développement de la verge, elle permet aussi la synthèse des spermatozoïdes, elle permet l'apparition des signes sexuels secondaires, donc la pilosité. Et puis elle a un rôle aussi sur les muscles, donc sur la force musculaire et l'énergie. Et elle a un rôle sur le cerveau particulièrement important également.
Anne-Cécile Michelet, d'où vient ce mot andropause? Le préfixe vient du grec andros qui signifie homme.
Oui, pose, la pose. Ouais. Donc c'est pas un mot qui fait très envie. En fait, j'ai fait des recherches que j'ai faites, j'ai trouvé une thèse, je crois, qui disait que le mot serait né pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il serait né en Italie. Alors si on se souvient bien, Deuxième Guerre mondiale, Italie, Allemagne, on avait, bon, et le reste du monde, mais d'un côté il y avait Italie, Allemagne. On avait besoin d'hommes forts, virils et avec d'autres critères, bon. Et d'après cette thèse, il semblait important d'avoir des hommes donc puissants, donc de transformer des symptômes en une maladie. Et une maladie qui dit qu'on n'est plus un homme, et ben évidemment, ça pousse à aller voir son médecin, et ce qui permettait de donner de la testostérone et donc de redonner du boost à ces fameux hommes. Donc l'homme, c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui on dit plus andropause, mais plutôt Dalla.
Dalla, c'est le déficit androgénique lié à l'âge. Élise Thiébaud, quel est le médecin qui a forgé cette notion d'andropause? C'est un psychiatre français?
Alors le mot andropause, il apparaît pour la première fois en 1951 dans les annales de psychiatrie du docteur Étienne Porot, qui était un psychiatre...
Antoine Porot, pardon.
qui était un psychiatre... qui est spécialiste en psychiatrie coloniale, très fortement imprégné de racisme. Et c'est dans ces annales de psychiatrie qui ont...
Dans le manuel alphabétique de psychiatrie,
que ça apparaît pour la première fois.
Professeur Desgrandchamps, quand on parle d'andropause, on parle de ménopause masculine. C'est un abus de langage pour vous ?
Complètement. En fait, par rapport à la ménopause, ça a été dit, c'est brutal, c'est visible. L'andropause, c'est insidieux. Et même si on parle d'un soutien biologique qu'est la testostérone, en fait, tout dépend du taux de testostérone d'où vous partez étant jeune. Et en fait, il n'y a pas de valeur normale de testostérone pour un individu. C'est l'évolution de la testostérone avec le temps. Si vous partez de très haut, vous pouvez très bien avoir un taux de testostérone apparemment normal, mais il peut vous en manquer. Et donc, comme ça a été dit, c'est un peu de biologie, mais beaucoup de symptômes. Et les symptômes sont, on dit, pléomorphes. Ça touche tout l'organisme. La prise de poids, un peu de dépression, un peu, bien sûr, de manque de désir. Mais il n'y a pas que ça, pas que le désir sexuel, l'envie de vivre. Et donc, tout ça est tellement insidieux que, finalement, on cantonne ces hommes qui sont en andropause, parce que le terme, même s'il est imprécis ou pas adapté, est quand même assez clair. Ces hommes, en fait, on les cantonne dans une dépression. Donc, ils prennent des antidépresseurs qui accentuent encore leur isolement, etc.
Élise Thiébaud, un mot rassemblera peut-être les hommes et les femmes autour de ces notions d'andropause et de ménopause. C'est le climatère. Selon le Robert, le climatère, c'est la période de changement endocrinien entraînant des modifications physiologiques, somatiques et psychiques caractérisées par la fin de l'activité des hormones sexuelles chez l'homme et chez la femme.
Oui, absolument. En fait, au départ, quand j'ai écrit « Ceci est mon temps », et que j'ai inclus ménopause et andropause, c'était précisément parce que, contrairement à ce que j'entends ici, la ménopause n'est pas un phénomène brutal. Il apparaît lentement, avec des manifestations qui sont relativement proches, en vérité, de celles qu'on trouve chez les hommes un peu à la même période. Et que, dans un sens, il y aura de la pathologisation extrême de la ménopause et une représentation qui en fait véritablement une maladie, et du côté masculin, plutôt quelque chose qui va être du registre, et je parle socialement et non pas médicalement, mais il va y avoir quelque chose qui est plutôt du registre du déni. Et moi, j'ai essayé de me dire, mais peut-être pas tout simplement, nous avançons dans l'âge, ça nous prend du temps. Ces modifications, elles sont très subtiles aussi chez les femmes, qui ont pour un grand nombre d'entre elles...
Je ne dis pas, je dis juste que le symptôme est évident, il n'y a plus de règles. Il y en a voilà, avant, il n'y en a plus après.
Absolument.
Alors que chez l'homme, c'est insidieux, ça se fait tellement petit à petit qu'on croit être comme ça naturellement. Alors que c'est simplement l'effet de l'âge sur la testostérone.
Oui, c'est tout à fait juste.
Je voulais être précise.
Non, mais je voulais pas. Mais quand l'arrêt des règles, ça n'est qu'un une toute petite manifestation. Ce qui nous arrive dans le corps est bien plus vaste.
Oui, et c'est la même chose quand on fait la distinction. Ce n'est pas que les troubles sexuels, c'est l'ensemble des phénomènes. Et pour les femmes, ce n'est pas que l'arrêt des règles, mais c'est aussi tout ce dont on parle, problèmes génitaux, urinaires, les problèmes de prise de poids.
Anne-Cécile Michelet.
Oui, non, je suis d'accord. Parce que ma ménopause... En fait, j'ai écrit un livre sur l'andropause parce que pour moi, bien que ménopausée, j'avais pas de symptômes. Enfin, donc, pour moi, c'était un non-sujet. Et puis, je les découvre petit à petit. Donc, je suis d'accord. Finalement, c'est subtil. Et c'est pas juste l'arrêt des règles. C'est des tas d'autres choses. Et ça peut être aussi comme ça, petit à petit, justement.
Docteur Le Cornet-Sokol, pourquoi la ménopause... Pardon. Et c'est un lapsus. Pourquoi l'andropause est-elle sous-diagnostiquée parce que les hommes consultent moins de médecins que les femmes au cours de leur vie?
Alors oui, clairement, on sait, ça c'est très connu dans les études, qu'il y a toujours beaucoup plus de femmes qui consultent les médecins. Et d'ailleurs, merci de faire ce genre d'émission et d'écrire des livres à ce sujet afin de pousser les hommes à plus se diagnostiquer. Alors effectivement, ils ont moins de symptômes, ils vont moins ça. Et puis surtout, en fait, c'est souvent quelque chose qui arrive de manière très progressive. Autant quand la femme, elle a un arrêt des règles, alors pour beaucoup en tout cas, il y a les bouffées de chaleur qui viennent, elles ont... Pour beaucoup d'entre elles, l'habitude d'aller voir un gynécologue ou quand il y a une anomalie, en tout cas, elles vont aller consulter un médecin pour se demander ce qui se passe. Autant quand vous avez un désir qui baisse petit à petit, une fatigue qui s'installe progressivement, un poids qui augmente. Voilà, c'est des choses sur le long terme, très insidieuses. Et puis on se dit, c'est peut-être les problèmes de couple. On se dit, oh, c'est pas grave, c'est l'âge. Donc voilà. Mais souvent, il y a des signes quand même, et je pense que le professeur Desgrandchamps, c'est les signes urinaires qui parfois peuvent être une porte d'entrée aussi.
Oui, mais quand même pour revenir, peut-être que les femmes consultent beaucoup plus que les hommes. Le problème, c'est les médecins qui n'ont rien à faire. Il y a très peu de médecins qui s'occupent du traitement hormonal substitutif de la ménopause. Très peu. C'est compliqué pour une femme d'avoir un gynécologue qui s'y intéresse. Vraiment. Et alors, pour les hommes, c'est encore pire, puisque, en fait, ça date de plus de 10 ans maintenant, tout a changé. Mais pour beaucoup de médecins, l'andropause n'existait pas. C'était, on voit dans la littérature, 2010-2015, 2 à 12% des hommes, parce que c'était basé juste sur des dosages de testostérone, dont on sait que tout dépend de la testostérone qu'on avait avant. Et donc, si on met un seuil arbitraire très bas, ben, beaucoup de gens ont une testostérone normale et pourtant sont en andropause.
Donc, l'andropause touche beaucoup plus d'hommes qu'on ne le croit après la cinquantaine.
Pour moi, c'est l'immense majorité, voire tous.
Pourtant, tous. Très souvent, notamment à ce micro, dans cette émission, nous avons eu des endocrinologues ou des urologues qui nous disaient « Mais vous savez, l'andropause, ça ne concerne que 2 à 3% des hommes. » Et en fait, il y a un changement de paradigme.
Ça a changé. Les dernières recommandations là, 2020-2022, c'est qu'en fait, s'il y a des petits signes, mais qui sont indirects, hein, pas seulement sexuels, de dépression, de prise de poids, de fatigue, eh ben alors, on donne de la testostérone, quel que soit le taux de testostérone, même si c'est normal ou normal bas. Et puis, au bout de 6 mois, on voit si ça va mieux avec, ça veut dire qu'on en manquait. Voilà.
Docteur Le Cornet-Sokol.
Oui, alors là, il y a des recommandations, même les endocrinologues et les uro-andrologues sont parfois un peu divergents. Les uns vont doser la testostérone totale. Alors, il y a tout un débat. Quel type de testostérone faut-il doser? La totale, la liée? Parce qu'en fait, c'est un mécanisme complexe. La testostérone, elle circule dans le sang, mais elle est liée à des protéines. Elle va devoir s'attacher à des récepteurs pour rentrer dans les cellules et faire son action. Donc, quel type de testostérone? Peut-on se fier au dosage? Quels symptômes? Et puis, là où je rejoins le professeur Desgrandchamps, c'est que dans la formation des médecins, dans notre capacité à aller chercher, à pas juste dire « Ah bah, faites un peu de sport et puis ça va aller mieux, monsieur », à aller plus interroger, plus chercher, effectivement, il doit progresser.
Alors, j'aimerais qu'on rappelle les symptômes les plus fréquents de l'andropause, une baisse progressive de la libido et du désir sexuel, une baisse d'énergie, des troubles du sommeil, des bouffées de chaleur, une sudation plus forte, hein, sans activité physique, une plus grande irritabilité, une prise de poids notamment abdominale, une perte de la masse musculaire, des douleurs articulaires et musculaires. Vous confirmez, professeur?
Oui, en mettant un peu en dièse la bouffée de chaleur, oui, qui est un signe finalement assez rare. Par contre, il faut insister sur 2 symptômes qui sont la dépression et les troubles cognitifs, parce que la testostérone, c'est l'hormone de la vascularisation cérébrale. Et ce sont des hommes, en fait, qui perdent de la mémoire. Et puis, qui s'isole petit à petit. Rien que ça, les troubles dépressifs, la recommandation actuelle, c'est de doser la testostérone.
Docteur Le Cornet-Sokol.
Troubles de mémoire, pardon.
Oui, et on parle hein, énormément dans les médias de l'obésité et de l'excès de poids, du diabète de type 2. 50% des hommes avec un diabète de type 2 ont un déficit de testostérone. Donc clairement, il faut aller le rechercher de manière beaucoup plus importante, parce qu'en plus, c'est un cercle vicieux.
Pour enchérir, la testostérone guérit. La testostérone fait maigrir, augmente la masse musculaire, beaucoup de sportifs en prennent d'ailleurs, corrige le diabète, ou en partie, et on va y corrige revenir, le problème des lipides aussi.
On va y revenir tout à l'heure.
Alors, en tout cas, de manière partielle. Je dirais peut-être pas qu'on va guérir le diabète, mais en tout cas, ça fait partie...
C'est pas inéluctable. Le manque de testostérone peut être corrigé et corrigera les manifestations qui lui sont liées.
On va revenir tout à l'heure sur cette prise de testostérone. Anne-Cécile Michelet.
Oui, c'était juste que, pour rajouter, je suis allée interroger évidemment des médecins, que j'appelle en blouse blanche, mais il y a aussi d'autres réponses possibles. Bien sûr, il faut aller vérifier qu'on n'a pas quelque chose de grave, il me semble.
Oui. Il n'y a pas grand-chose.
Et la testostérone est une des solutions possibles, des réponses possibles. En revanche, on peut aussi aller consulter un sexologue, parce que ça peut être... Enfin, au-delà de l'histoire d'érection et de testostérone, il peut y avoir aussi des choses dans le couple à revisiter. Et ça me semble important de...
On y reviendra tout à l'heure. Okay. Mais ce qui peut alerter tout de même sur les signes, avant d'écouter le disque, professeur Desgrandchamps, c'est quand les érections matinales sont moins fortes. C'est quand même un signal d'alerte.
Bien sûr, mais c'est pas le seul. Voilà, il ne faut pas résumer l'andropause à une sorte de virilité perdue dont on pourrait se moquer.
Docteur Emmanuel Sokol-Lecornet.
Oui, alors en fait, on dit que classiquement, les trois grands signes, c'est la perte ou la diminution des érections matinales, la perte d'envie, le fait d'avoir moins envie avec l'âge, donc une libido qui diminue, et puis la qualité des érections qui est moins bonne. Donc des fois, c'est vrai qu'un peu par facilité, quand à la fin, vous savez, la consultation, le mot de la poignée de porte, ah, au fait, docteur, vous savez, ça marche plus très bien, et on se contente de faire une ordonnance comme ça, mais en fait, faut savoir aussi aller chercher plus loin et dire, bah, la prochaine fois, je vous donne un rendez-vous plus tôt et on va en reparler de manière un peu plus poussée.
Si je peux, pour les gens qui nous écoutent, il y a un questionnaire qui s'appelle Adam. C'est un jeu de mots, hein, bien sûr. Où les troubles de l'érection ne sont qu'un point. Si j'ai le temps, c'est...
Allez-y.
Éprouvez-vous une baisse du désir sexuel? Éprouvez-vous une baisse d'énergie? Vous répondez oui, non à chaque fois. Éprouvez-vous une diminution de force ou d'endurance? Votre taille est-elle diminuée? Avez-vous noté une diminution de votre joie de vivre? Êtes-vous triste ou maussade? Vos érections sont-elles moins fortes? Donc là, on le retrouve, mais c'est pas le seul point. Avez-vous noté une altération récente de vos capacités générales? Vous endormez-vous après le dîner? Moi, oui. Votre rendement professionnel s'est-il réduit? Et en fait, si vous avez plus que trois réponses oui à ce questionnaire, Adam, en cette question qu'on trouve facilement sur Internet, il faut aller consulter, il faut demander. C'est pas seulement les érections. Les érections en font partie, mais c'est qu'un point.
Et dans ce cas-là, il faut peut-être doser son taux de testostérone disponible, et ça se fait, c'est ça, par une prise de sang le matin entre 7h et 11h.
Le matin, j'ai à 10h, c'est pour ça que cette émission, on est bourré de testostérone. C'est là où il y a le pic, c'est nique téméral, ça dépend de l'alternance jour-nuit de la testostérone.
Et les concentrations sanguines normales, même si on a dit qu'en l'espèce, il n'y avait pas de normalité.
Sont très larges, ça va de 2 à 20. Comment voulez-vous savoir si vous êtes normal ou pas.
Élise Thiébaud.
Moi, je voulais juste insister sur quelque chose qui est que ce climatère qui nous réunit, en fait, c'est un cycle. On s'imagine qu'on entre dans une phase de déficit ou de maladie. Or, dans aucun des cas, c'est une maladie, c'est une métamorphose, c'est un changement. C'est quelque chose à quoi le corps s'adapte, comme il s'est adapté à la puberté, comme il s'est adapté pendant la matrescence, au moment de la grossesse, du postpartum. Il y a des choses qui se modifient, et les aborder uniquement sous l'angle d'un déficit et d'une maladie, c'est peut-être aussi une façon de créer un stress et de ne pas accueillir ce mouvement de changement qui aussi peut apporter des choses intéressantes.
Je voudrais revenir sur la phrase que vous avez dite, professeur Desgrandchamps, sur « dont on pourrait se moquer ».
Oui.
Alors ça...
C'est pour ça que les hommes ont peur d'en parler.
Oui, oui, mais...
C'est du vécu. Hein,
Oui, c'est parce que c'est eux qui projettent qu'on va se moquer.
Bien sûr que oui.
Mais c'est peut-être le moment
c'est la société qui aussi projette une image de la virilité exacerbée qui n'est pas la réalité.
Et c'est là, quand je disais re-questionner le couple, re-questionner sa façon de faire l'amour, etc., c'est re-questionner... Pourquoi absolument faut-il qu'un homme soit dur?
Un homme n'est pas un god Michel.
C'est la phrase du jour.
Et en plus, peut-être que ça peut réjouir les femmes si on réinvente sa sexualité. Donc, ouvrir tout ça, le dialogue à ce moment-là, me semble intéressant.
Docteur Le Cornet-Sokol.
Et j'en profite pour faire un plaidoyer pour la capacité que les médecins ont à passer un peu de temps avec leurs patients et du temps de qualité. Et c'est vrai que si on remet en avant notre capacité à communiquer avec nos patients, à prendre ces quelques minutes, on n'a pas besoin de rester deux heures avec un patient, à juste poser, entendre, voir, là on pourra aussi beaucoup plus aider nos patients.
Allez, dans quelques instants, quelles sont les solutions à l'andropause? Que vaut le traitement à base de testostérone? Si vous vous sentez concerné par les symptômes décrits depuis le début de l'émission, n'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000. On se retrouve après avoir écouté Alain Bachung, Gabi au Gabi, une chanson que l'on a entendue pour la première fois à la radio en 1980, 10h25 sur France Inter.
Je me mouille. C'est ma dernière surprise partie. Je m'écrase le nez au hublot. J'ai mon contrat de confiance, l'encéphalo qu'il faut. J'ai du bol. J'en vois un qui rigole. Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je peux pas dormir, je fais des conneries.
Gabi au Gabi.
La vie n'est pas éternelle.
Grand bien vous fasse.
Il nous reste quoi? 10 Noël en bonne santé, 10 vacances au bord de la mer,
à lire EBI,
10 bonnes fondues à la montagne. Alors, c'est pas pour vous casser le moral, mais.
Tu me casses le moral.
Non, mais oui, mais c'est comme ça, il faut être lucide. Il ne nous reste plus beaucoup de batterie.
Sur France Inter.
Et ce matin, on s'intéresse au tabou de l'andropause.
40% des hommes de 40 ans ont déjà des difficultés érectiles. Le facteur principal, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais c'est quand même l'âge. Mais maintenant, j'ai le sentiment que vous avez aussi ce qu'on appelle l'andropause. Donc pour le prouver, vous allez me faire une prise de sang le matin à jeun entre 8h et 10h, que vous allez recommencer la semaine d'après. La prise de sang va nous permettre de doser la testostérone, parce que si jamais vous avez un taux de testostérone faible, vous allez avoir une taille qui va s'épaissir. Vous allez prendre un peu de poitrine, une perte de poils, moins de mémoire, une humeur un peu triste,
baisse de la qualité des érections,
diminution de la libido. L'andropause, ça peut vous faire donc vieillir prématurément.
C'est quand même dément que je n'ai jamais entendu parler de tous ces symptômes. Je suis le seul à vivre ça?
le docteur Marc Galliano dans le documentaire La Grande Débandade de Rémy Burkel, bientôt diffusé sur France Télévisions. Eh bien non, le réalisateur de ce documentaire n'est pas le seul à vivre ça. Anne-Cécile Michelet, Élise Thiébaud, dans vos livres respectifs, vous avez rencontré beaucoup d'hommes qui ont du mal à parler de ce sujet. Anne-Cécile Michelet, vous, c'est votre compagnon qui vous alerte.
Oui, c'est le premier qui a prononcé le mot andropause devant moi. Je ne connaissais pas le mot. Et donc, je lui ai demandé qu'est-ce que c'était. Il m'a donné une liste de symptômes qui m'ont... Ok, j'ai entendu. Mais surtout, ce qui m'a atterré, c'est le fait d'avoir jamais entendu ce mot-là. Et donc, j'ai eu besoin de savoir ce qui lui arrivait. Et après, je me suis dit, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de littérature. Il n'y a aucune émission. Il n'y a rien. Donc, j'ai fait une enquête d'abord pour moi. Et puis après, je me suis dit, je vais écrire un livre parce qu'il est important, voire nécessaire qu'on en parle. Et j'ai eu envie aussi d'entendre les hommes parler de ce qu'ils vivaient.
Élise Thiébaud, vous un jour, vous le racontez dans votre livre, lors d'une pause cigarette avec Jean-Claude, la soixantaine, prof d'histoire reconverti dans la politique, vous discutez, il vous explique ce qu'est le féminisme, doctement, et puis en regardant une affiche publicitaire qui met en scène une femme en soutien-gorge à Friolant, il se tourne vers vous et vous dit sur un air tragique, ça ne me fait plus rien, c'est vraiment la débandade. Et que vous dit-il dans la foulée de cet aveu ?
Dans la foulée de cet aveu, il y a quelque chose qui sort d'un seul coup, qui est qu'il se sent, il décrit ce qu'on dit que les femmes ressentent à la ménopause. Il a le sentiment de devenir transparent, que plus personne ne fait attention à lui, qu'il fait moins peur. Ça, c'est un truc assez extraordinaire. Il associe à la virilité et à une certaine idée de l'homme de créer une petite crainte chez les personnes qui s'adressent à elle et à lui et en particulier les femmes. Donc, il y a toute une série de choses avec aussi l'idée de « je suis prêt à n'importe quoi pour que ça s'arrête ».
Et il vous dit « je ne ressens plus rien, je ne vibre plus, je suis déprimé ». Il se sent donc moins attirant, moins puissant, plus gros. Bon, il a du mal à monter les escaliers, à courir, à randonner en montagne. Et puis, il se sent en compétition avec des hommes plus jeunes.
Bien sûr, en fait, il déploie tous les imaginaires de la virilité qui lui semblent défaillir chez lui. Voilà, c'est ça dont il parle. Et en fait, quand on discute un peu avec les hommes, ils sont nombreux à témoigner de cela à un moment précis de leur vie. Parce que, pareil, ça n'est, comme pour la ménopause, qu'un moment de la vie, qu'un turn point, qui peut être très difficile, mais qui peut être aussi assez intéressant.
Vous l'entendez souvent, cette plainte, professeur Desgrandchamps, je rappelle que vous êtes urologue.
Non. Non, non, sincèrement, non. Les hommes se confient pas à ce point-là de façon aussi intime sur leur projection dans la société et autres. Mais en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est au moment de la fin de la consultation que déjà ils se dévoilent un peu. Les hommes ont pas l'habitude de parler. Un homme, ça parle pas, c'est droit dans ses bottes. Et puis de temps en temps, ça, une femme parle facilement. Enfin, peut-être je généralise, mais plus
sans et
peut-être
sans
moins difficilement. Mais donc non, on n'a pas des plaintes pareilles. On a des plaintes surtout. Nous, on rentre dans le traitement de l'andropause, pour être simple, hein, par une petite porte qui sont les problèmes urinaires. Et donc, quelqu'un vient parce qu'il veut savoir si c'est normal ou pas. Et c'est là que, petit à petit, on va découler.
Élise Thiébaud, un jour, votre propre père vous dit, en vous montrant sa braguette, il vous dit un truc terrible.
Il ne se passe plus rien.
À quoi ça sert ? De toute façon, je ne suis plus un homme. Ce qui est terrible, c'est que la baisse du désir sexuel, de la libido, c'est très angoissant pour les hommes, c'est très mortifère.
Ben, il y a vraiment tellement ce sentiment qu'ils s'identifient à cette performance-là et que le moment où ça leur échappe pour plein de raisons, en l'occurrence pour mon père, c'était pour des raisons de santé qui n'avaient rien à voir avec son âge, qui était qu'il souffrait de troubles cardiovasculaires, qu'il avait été tabagique pendant très longtemps, qu'il était en partie alcoolique. En vérité, il y avait beaucoup de choses qui, à ce moment-là, effectivement, le rendaient dans l'incapacité de vivre sa vie amoureuse et sexuelle. Et il jugeait bon de s'en étaler familialement, ce qui est encore un autre problème.
Quoi qu'il en soit, Anne-Cécile Michelet, les hommes ne sont pas du tout préparés à cette arrivée de l'andropause.
Bah, s'ils ne sont pas au courant, oui, ils vont penser qu'ils ont un problème. Qu'ils peuvent considérer comme honteux, donc ils peuvent le garder longtemps. Ils peuvent même charger leur compagne, ils vont lui dire que oui, t'es moins jolie, t'es moins sexy, t'es moins ceci, t'es moins cela. Et puis, par chance, certains arrivent à parler. Et moi, ceux qui se sont confiés à moi, pour le coup, ils se sont vraiment confiés. J'ai eu du mal à trouver des témoins, mais une fois qu'ils étaient d'accord pour parler, ils se sont intimement confiés et c'était très émouvant. Et ceux-là, je les ai trouvés puissants. Puissants dans leur acceptation de leur entièreté, avec tout ce qu'ils ont de subtil, de fin, de fragile, qui est aussi une force.
C'est gentil de parler aussi gentiment des hommes. Actuellement, c'est tellement rare, j'apprécie.
Oui, parce que j'avais 100% d'eux-mêmes. Ouais. Donc c'était un vrai cadeau. Pour le coup, j'ai été extrêmement émue pendant ces interviews.
Et Ludovic nous écrit « Je suis sidéré, j'ai tous les symptômes décrits, je suis diagnostiqué dépressif et je suis sous antidépresseur. » Docteur Emmanuel Le Cornet-Sokol.
Alors ce problème de diminution de la libido, c'est quelque chose qu'on connaît bien en endocrinologie, donc les maladies hormonales. On sait souvent qu'on a un grand retard diagnostique quand l'un des symptômes est quasiment uniquement la perte de la libido, parce que, alors si vous êtes dans un couple solide ou éventuellement l'épouse ou le conjoint en tout cas va s'inquiéter, à ce moment-là vous allez venir, mais il y a effectivement beaucoup de maladies où comme ça vient de manière très insidieuse, alors on se dit je vais moins bien dans mon couple, donc là effectivement il faut avoir l'attention. Ce n'est pas si normal, en fait, d'avoir une libido qui baisse. Il ne faut pas juste avoir un diagnostic de dépression ou de burn-out, un peu à la va-vite, j'exagère un peu. Et donc, il faut aller chercher, il faut aller faire ces dosages, il faut aller examiner les patients, les regarder. On va aller chercher des petits signes aussi, la diminution de la pilosité, l'apparition des seins, qui n'est pas juste une simple prise de poids. Donc, tout ça, il y a tous ces petits signes qu'il faut aller chercher. L'ostéoporose aussi, ce n'est pas qu'un problème de femmes. Et d'ailleurs, les problèmes d'hormones ne sont pas que des trucs de bonnes femmes.
Allez, merci. Je vous propose d'écouter une note vocale déposée par Olivier sur l'appli France Inter.
Bonjour à tous, je suis Olivier, j'ai 66 ans. J'ai entendu quelque chose qui me titille dans votre façon d'annoncer le thème du jour. Vous avez dit quels sont les signes qui doivent alerter. Pour moi, alerter, en général, si on met une alerte, c'est qu'il y a un truc grave ou important. Donc, ma question, c'est grave l'andropause ? J'avais pas l'impression. Donc, c'est ça qui m'étonne. Voilà, bonne journée à vous.
Professeur Desgrandchamps.
Oui, pour répondre à ce que je veux dire, bien sûr que c'est grave, parce qu'on vit mal. C'est surtout ça. Quand une fois, on est dépressif, on est isolé, on perd la mémoire, on grossit. On vit, mais mal.
Élise Thiébaud.
Je ne sais pas, effectivement, le terme d'alerte peut être inquiétant dans la mesure où on vous dit que ce qui est en train d'arriver, que vous êtes en train de vieillir, est une maladie, que c'est grave, qu'il faut y faire attention, qu'il faut la soigner. C'est ce qu'on entend, nous, avec la ménopause, depuis très longtemps, avec une approche beaucoup moins douce et un regard beaucoup moins doux sur ce que nous sommes en train de devenir. Et c'est un pas que nous faisons avec Anne-Cécile, par exemple, de dire « Et si on parlait de ce que nous sommes en train de vivre dans nos corps ?»
Je suis totalement d'accord ensemble. Avec vous, mais quand on ne sait pas ce qui vous arrive, cette baisse de libido, cette fatigue, cette déprime, cette baisse de tonus, ces sudations nocturnes, c'est normal que cela puisse inquiéter des hommes à qui on n'a jamais parlé d'andropause ou de déficit androgénique lié à l'âge. Anne-Cécile Michelet.
Peut-être que c'est pas forcément grave pour tout le monde, mais c'est grave si on le vit mal. Parce que ça peut être aussi un moment... Enfin, pour moi, c'est une super nouvelle en réalité. Ménopause et andropause confondues.
Pourquoi ?
Parce que c'est un moment où on fait un arrêt sur image et où on se re-questionne, est-ce que tout ce que nous vivons dans le couple, ouvert, fermé, chacun son... Est-ce qu'on aime ça vraiment ? Est-ce qu'on revalide tout aujourd'hui ? Et c'est pas tous les jours qu'on peut se re-questionner sur ça, et c'est rarement le cas. C'est-à-dire le moment où l'homme et la femme sont à peu près alignés. Pour moi, ça peut être une renaissance de quelque chose de vraiment beau.
Élise Thiébaud.
Oui, il y a quelque chose d'important à souligner. Ce que l'on traverse dans ces moments-là, c'est aussi l'occasion de se relier avec nos corps, de ralentir. Tous les organes nous disent « va plus doucement ». d'arrêter de performer une forme de féminité ou de masculinité, de moins s'identifier éventuellement à cette idée de force ou cette idée de valeur indexée à la reproduction ou au désir, pour les femmes et les deux, et de se dire que oui, ces vulnérabilités, elles sont enseignantes pour nous. Moi, par exemple, les bouffées de chaleur que j'ai traversées il y a 10 ans, j'ai eu, moi, la ménopause, ça fait 10 ans que je suis ménopausée, et je n'ai jamais été en meilleure santé aujourd'hui. Je n'ai pas pris de traitement hormonal substitutif parce que ça n'était pas possible pour moi compte tenu de mes antécédents de santé. Mais effectivement, il s'est produit quelque chose d'assez extraordinaire dans ma vie.
Docteur Emmanuel Lecornet-Sokol.
Alors, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça doit nous alerter? Alors, je reviens bien sûr sur l'effet sur la vie, sur le quotidien, sur le couple, sur la vie professionnelle et sur la place qu'on prend dans la société. Mais si je prends ma casquette de médecin, oui, c'est grave parce que ça augmente le risque d'ostéoporose, de fracture. Et on sait que quand on a une fracture, en particulier quand on est un sujet âgé, ça expose à beaucoup de risques, de conséquences et même ça augmente la mortalité. Et puis, deuxièmement, ça augmente le risque cardiovasculaire. Alors, ce n'est pas vraiment un facteur de risque, la baisse de testostérone, mais en tout cas, on sait que c'est un marqueur de risque, que c'est associé. Et donc, c'est vrai qu'on va avoir peut-être un regard différent sur les artères du patient, toujours dans l'idée de pouvoir maintenir une bonne santé longtemps.
Tiens, à propos de facteurs de risque, quels sont les facteurs de risque, docteur, professeur Desgrandchamps? L'obésité, l'alcoolisme chronique, alors, le tabagisme, la prise de certains médicaments.
En fait, le facteur de risque de baisse de testostérone, c'est avant tout ce qu'on appelle le syndrome métabolique. C'est l'homme de 50 ans qui est un peu sédentaire, qui prend du poids. Le gras est un ennemi. C'est un organe surnuméraire qui est toxique. Et le gras transforme la testostérone en œstrogène, pour être simple. Et
donc, c'est-à-dire concrètement?
Ça veut dire qu'en fait, vous féminisez, si je puis dire. C'est que les hormones mâles sont moins présentes. Ce qui fait que ça, plus l'âge ne fait que concourir à l'andropause. Mais l'andropause, c'est lié à l'âge. C'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour vivre si longtemps. On a été créé pour se reproduire. À 50 ans, on devrait tous être morts. L'andropause.
Merci de cette nouvelle.
L'andropause est un problème qui n'existait pas au 17, 18e siècle.
Et l'alcoolisme, le tabagisme,
ça
la prise de certains médicaments.
Ça altère les érections. Le tabac altère les érections. Mmh. Les médicaments, notamment les bêta-bloquants que tout le monde prend pour l'hypertension, ça met une virilité par terre.
Ouais. Quel est le rôle de l'alimentation, de l'activité physique régulière, de la gestion du stress pour justement ralentir peut-être certains symptômes de l'andropause, docteur Lecornet-Sokol?
Comme on a dit, l'obésité, et en particulier l'obésité métabolique, donc c'est celle où on a plus de graisse au niveau du ventre, est vraiment un ennemi des androgènes. Donc comme on disait, il y a une transformation dans les graisses de la testostérone en hormones féminines, et c'est ça qui notamment peut contribuer. Et donc on sait, on a des études qui montrent une baisse de la testostérone à la fois par ça, mais aussi parce que au niveau de l'hypophyse, donc la glande qui va commander les testicules, exactement, au niveau du cerveau, elle aussi, elle va être impactée par cette obésité. Donc l'activité physique est vraiment fondamentale.
La gestion du stress
peut aider, et bien sûr la gestion du
stress. Et l'alimentation aussi ?
Alors voilà, donc ça va avec une alimentation équilibrée, elle va permettre de contribuer aussi à limiter la prise de poids. Alors, on n'est pas là pour dire qu'il faut absolument maigrir et perdre 30 kilos et que tout votre vie va aller mieux. Mais en tout cas, pour maintenir un certain équilibre alimentaire, je rappelle que l'obésité est une maladie. Et parmi les conséquences de cette maladie, il y a les problèmes d'androgène.
Allez, on reviendra tout à l'heure sur le traitement à base de testostérone, mais il est déjà l'heure de retrouver la chronique. Alors voilà, de Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Baptiste Beaulieu.
Alors voilà. Un jour, Ali, il y a longtemps, je suis jeune médecin généraliste, je reçois un patient. On va l'appeler Monsieur Numéro 1. Monsieur Numéro 1 vient pour faire contrôler sa tension artérielle. Nous faisons connaissance, je l'examine, tout va bien et je lui renouvelle son traitement pour la tension et son traitement, à sa demande, pour des troubles érectiles. La fameuse petite pilule bleue. Le patient s'en va. Une demi-heure après, j'ouvre la porte pour accueillir un nouveau patient. Quand je vois que Monsieur Numéro 1 est revenu, il me fait signe discrètement, je le reprends entre deux patients et il me dit, sitôt la porte fermée, « Docteur, vous avez oublié de me faire l'ordonnance de la petite pilule bleue. » Non, non, monsieur, regardez, elle est là, et je lui montre l'ordonnance qu'il tient à la main. Oui, docteur, me répond monsieur numéro 1, mais mon médecin traitant me la fait toujours sur une autre ordonnance, et je préfère. Alors, sur le coup, je ne comprends pas trop, mais soit je déchire l'ordonnance comprenant l'anti-hypertenseur et la petite pilule bleue pour refaire deux ordonnances, l'une avec le traitement anti-hypertenseur d'un côté, l'autre avec la petite pilule bleue de l'autre. Et monsieur numéro 1 repart. Je n'ai pas bien compris les raisons de sa demande jusqu'à ce qu'un jour un autre patient, appelons-le monsieur numéro 2, m'adresse la même demande. Son traitement habituel d'un côté, la petite pilule bleue de l'autre. J'étais dans un flou total, Ali. Pourquoi ne pas réunir ces traitements sur un même papier? Ça n'avait pas de sens. Puis il y a eu un autre patient, Ali, monsieur numéro 3, puis numéro 4, numéro 5, et ainsi de suite. Et à chaque fois la même demande, c'est un constat qu'on fait peu à peu, deux ordonnances. Alors, ça saute pas aux yeux et c'est sûrement anecdotique, mais qu'est-ce que l'anecdotique dit de la norme et de la réalité quand il est répété encore et encore? Parce que vous voyez, Ali, j'ai fini par percer à jour le secret de ces deux ordonnances. C'était la honte. Ces patients éprouvaient un tel sentiment de honte à l'idée d'avoir des troubles érectiles qu'ils allaient avec leur première ordonnance dans leur pharmacie habituelle, mais ils allaient dans une pharmacie différente où ils n'étaient pas connus, parfois même une pharmacie loin de leur domicile, pour la seconde. Qu'est-ce que cela dit des hommes, de nos masculinités, de comment celles-ci se sentent telles qu'en elles-mêmes, comment elles s'évaluent, se jaugent, se jugent, se comparent, se vivent, Ali? En Europe, il y a 7 fois plus de mères célibataires que de pères célibataires. En 2021, 81% des rendez-vous pris chez un soignant pour un patient mineur ont été pris par des femmes. 99% des agressions sexuelles et des viols sont commis par des hommes. Nous vivons dans cette société où abandonner sa compagne enceinte, où ne pas savoir si ses propres enfants sont vaccinés et où appartenir au même genre que les principaux auteurs de violences sexuelles est moins honteux pour les hommes que de souffrir de troubles érectiles. Il serait sérieusement temps de revoir le sens des priorités de nos masculinités. Nous plaçons mal nos fiertés et nous nous trompons de honte.
Tiens, le regard d'un homme, le professeur François Desgrandchamps.
Oui, comme boutade, plutôt que de faire deux ordonnances séparées, il vaudrait peut-être arrêter le traitement antihypertenseur responsable des troubles de l'érection. Mais ça, c'est pour évacuer la question.
Mais non,
c'est très fréquent ce que nous a dit notre collègue. Là, je le vis régulièrement en consultation. Une deuxième ordonnance discrète pour aller ailleurs, évidemment que oui.
Docteur Emmanuel Lecornet-Socol.
Oui, toujours. Toujours les ordonnances séparées. Et moi, on me l'avait même appris à l'université. Deux ordonnances séparées, tu feras pour les traitements.
Ça dit, c'est moins grave maintenant parce qu'il n'y a plus le mot Viagra. Oui. Il y a le mot sildénafil. Et donc, dans la pharmacie, le sildénafil, vous le voulez à 20 mg ou à 50 mg? Tout le monde s'en fout. Si c'est le Viagra, là, tout le village est au courant.
Votre regard, Anne-Cécile Michelet, sur la chronique de Baptiste Beaulieu?
Je peux être que d'accord, puisque d'abord c'est son expérience, et en effet il y a cette histoire de honte, mais je trouve que c'est toujours, on reboucle toujours la même boucle. Pourquoi les hommes ont-ils besoin d'être, d'être viril, comme je disais, et qu'est-ce que ça veut dire viril, et deux, pourquoi ils ont honte, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir parler de ça, pas pouvoir... pour moi, c'est un peu, on est un peu bloqué dans une impasse.
Je dis, au contraire, pour pousser le bouchon un peu plus loin, l'homme devrait être fier de prendre du Viagra ou des analogues. Comme une femme va se préparer pour être belle pour un rapport sexuel, l'homme va dire, je fais attention à ma compagne, à mon compagnon, je prends un médicament pour que le rapport sexuel soit une réussite. Donc on devrait plutôt en tirer une certaine fierté.
Élise Thiébaud.
C'est une certaine idée de la réussite de considérer qu'elle repose sur l'érection, sa qualité et donc un rapport pénétratif dont on sait
et c'est vrai qu'on vient vous consulter beaucoup pour cette question-là.
Oui, 100% d'accord
avec d'autres études nous le disent, pour les femmes, je crois qu'on est dans 15% qui va tirer son plaisir d'une seule pénétration, de la seule pénétration. Donc je trouve très fort la phrase de Baptiste Beaulieu sur « nous plaçons mal nos fiertés, mais nous considérons mal et nous traitons mal nos plaisirs et nos désirs également, qui méritent mieux que cette recherche extrême de performance, où là on est, je trouve, dans la prophétie autoréalisatrice. C'est une maladie, on va la soigner, on va continuer contre vents et marées à performer quelque chose qui, beaucoup d'autres études nous le disent, n'apporte pas tant de plaisir que ça.
Allez, tous les épisodes. Faut pas résumer l'andropause à une perte d'érection, surtout pas.
Mais y compris.
Surtout
mais
pas.
Y compris
N'oubliez
la dépression.
Pas la dépression, les troubles cognitifs,
mais
on perd sa mémoire.
Mais même
c'est pas de la performance, c'est de la vie quotidienne.
Ni résumer le rapport sexuel réussi
en une pénétration qui est allée jusqu'au bout.
Oui. Non, mais c'est parce que l'érection flatte le compagnon ou la compagne.
Non, mais il faut aussi dire que ça a été quand même un apport dans la qualité de vie, en tout cas, de beaucoup d'hommes, sans dire que c'est uniquement ça. Bien sûr, je suis aussi une femme, et voilà. Mais je pense que pendant longtemps, pendant des années, on n'avait que, ben, monsieur, on va se tenir la main et ça va aller mieux. Et on a eu aussi ces médicaments et qui sont un outil. C'est un outil dans une boîte à outils qu'il faut aussi proposer, mais on est d'accord.
La testostérone, ça existe depuis longtemps, et les traitements pour l'érection,
mais elle était souvent réservée.
On reviendra dans quelques instants sur la question de la testostérone. Tous les épisodes de la chronique de Baptiste Beaulieu sont à retrouver sur l'appli Radio France. Dans un instant, on s'intéresse notamment à cette façon de repenser sa sexualité quand on est atteint d'andropause. On voit ça après avoir écoutez Beyoncé qui interprète Bodyguard. Interprété Bodyguard.
France Inter.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Grand bien vous fasse.
Et on s'intéresse ce matin au tabou de l'andropause, cette baisse de la testostérone qui peut entraîner différents symptômes comme la diminution de la libido, des érections en berne ou de mauvaise qualité, de la fatigue, de la déprime ou encore des douleurs articulaires et musculaires. Professeur François Desgrandchamps, faut-il suivre un traitement à base de testostérone quand on est atteint d'andropause et sous quelle forme ?
La réponse, c'est oui, à condition d'éviter les contre-indications qui sont pas fréquentes, des cancers en évolution de la prostate ou du sein, mais un cancer du sein qui est stabilisé ou guéri depuis quelques années n'empêche pas d'en prendre. Après, il y a la polyglobulie, c'est pour ça que les sportifs prennent de la testostérone, ils ont beaucoup de globules rouges, donc des performances sportives supérieures. C'est une contre-indication également, et puis l'apnée du sommeil. En dehors de ça, qui sont assez rares, il n'y a aucun risque. Et donc, en fait, il vaut mieux, si on croit qu'on en manque, avec les symptômes qu'on a déjà longuement décrits, faire le test. Le test, c'est pas une seule piqûre, c'est pas un seul mois de traitement, c'est 6 mois de traitement. Puis après, on arrête. Si on se sent mieux avec que sans, à ce moment-là, on peut continuer, c'est qu'on en manquait.
Sous forme de gel, alors, de piqûre, sous quelle forme prend-on la testostérone ?
Il y a effectivement deux formes, mais il n'y en a qu'une qui est remboursée par la Sécurité sociale, ce sont les piqûres. C'est une injection dans la fesse, un intramusculaire, tous les mois ou toutes les trois semaines. Sinon, on peut mettre du gel tous les jours, de 3 à 4 comme pression, face interne des cuisses, pour que la testostérone pénètre. L'intérêt du gel, c'est que la piqûre fait un grand pic de testostérone, immédiatement après, et puis après, petit à petit, ça se stabilise. Et le grand pic, on ne sait pas ce que ça fait sur le corps. Voilà, c'est une petite
inconnue. On ressent les effets au bout de combien de temps ?
Deux, trois mois.
Alors, quand, là, parlons de la libido, quand elle est en berne, comment réinventer sa sexualité quand on sonne l'heure de l'andropause, Anne-Cécile Michelet ?
Alors, les hommes que j'ai interviewés qui m'ont dit avoir retrouvé une vie sexuelle, sensuelle et amoureuse épanouie, ils ont pour beaucoup parler soit à leur compagne ou compagnon, soit à un thérapeute quelconque qui s'appelle sexothérapeute ou autre. Ils ont pu également faire une consultation de PNL, enfin, c'est-à-dire à un moment, s'il n'y a plus d'érection...
PNL
ça... Programmation neurolinguistique. C'est-à-dire si on a de plus en plus peur que ça ne fonctionne pas, ça va finir de fait par ne plus jamais fonctionner parce qu'il y a une trop grande angoisse. Donc c'est reparler au cerveau pour lui dire en fait ça peut aussi bien se fonctionner. Et donc c'est se refaire un film positif qui va faire que la prochaine fois ça va aller mieux. Donc il y a eu cercle de parole, tantra, c'est-à-dire découvrir une autre sexualité différente ou slow sex. Ou parler à sa moitié et voir ce qu'on...
Ou à ses amis aussi.
Alors à ses amis, mais puisque ça concerne...
Libérer la parole en tout cas.
Oui, et puis questionner l'autre aussi.
Élise Thiébaud.
C'est la tante. Évidemment que parler, ça a beaucoup d'importance parce que les mots vont conditionner la manière dont on va vivre les choses. Et que commencer à concevoir... autrement qui on est et l'importance des liens qu'on a avec les autres, la nature et la qualité de ces liens, ça va contribuer. Alors indépendamment, moi je suis pas médecin, donc je ne vais pas dire comment on peut prendre en charge ça médicalement, mais évidemment ça ne peut pas suffire. Et commencer à s'écouter et à écouter les autres, ça peut être le bon moment.
Docteur Lecornet-Sokol.
Oui, alors sur la prescription de la testostérone, je rappelle que la première prescription doit être faite par un médecin spécialiste, donc un endocrinologue, un spécialiste des hormones ou bien un neuro-andrologue.
Pas évident d'en trouver dans certaines zones en France.
Et voilà, donc renseignez-vous, normalement les médecins traitants, ils ont quand même leur réseau. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même aussi une autre précaution, c'est le désir de paternité. C'est-à-dire que le fait de prendre de la testostérone, ça peut diminuer un peu la spermatogenèse. Je veux juste dire, c'est juste une précaution. J'ai pas dit c'est que c'était une contre-indication.
La paternité au-delà de 50 ans, c'est 3% des naissances en France. Donc c'est quand même assez rare.
C'est pour ça que,
c'est 60 ans.
On est d'accord que la plupart du temps, on ne s'adresse pas à la même catégorie. Mais il faut faire attention, chez les hommes qui sont dans la quarantaine, cinquantaine ou qui ont éventuellement un projet de paternité.
C'est la charge de performance.
Une poignée de secondes, vos ultimes conseils pour affronter cette andropause.
Juste, quand on parle de discussion, c'est peut-être vrai pour les rapports sexuels, mais c'est pas vrai pour la prise de poids, c'est pas vrai pour les troubles cognitifs. Donc, c'est bien de discuter, c'est bien de faire le dosage, et c'est bien de traiter dans le doute.
Tout à fait.
Vos ultimes conseils pour affronter cette andropause, Élise Thiébaud, en un mot ?
Faire du kung-fu.
D'accord, très bien.
C'est ce que j'ai fait moi pour la ménopause, et ça m'a très bien réussi.
Anne-Cécile Michelet.
Se détendre.
Donc, la gestion du stress.
Oui, d'une façon ou d'une autre, oui.
Professeur Desgrandchamps.
Une petite piqûre de temps en temps, ça fait pas de mal non plus.
De testostérone. Docteur Lecornet-Sokol.
Et en parler avec son conjoint, avec son médecin, avec ses amis. Je pense que le fait d'en parler déjà, on avance et on peut trouver des solutions.
En tout cas, ce matin, on a levé une partie du tabou de l'andropause. Et vu le nombre de messages que nous avons reçus ce matin, énormément de messages, je pense que beaucoup d'hommes se sont reconnus, après 45-50 ans, dans les symptômes que nous avons décrits, sans pouvoir forcément mettre le mot d'andropause ou de déficit androgénique lié à l'âge. Merci à toutes et tous. Merci docteur Emmanuel Lecornet-Sokol. Merci professeur François Desgrandchamps. Merci Anne-Cécile Michelet. Tout ce que vous devez savoir sur l'andropause, c'est publié chez Le Duc. Merci Élise Thiébaud. Ceci est mon temps. Ménopause, andropause et autres aventures climatiques, c'est publié au Diable Vauvert. Demain, pourquoi rêvons-nous ? Racontez-nous et nouveaux rêves dès maintenant sur l'appli France Inter.